9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre service, bonjour et bienvenue. Bon, on va essayer de ne pas être trop parano ce matin. J'ai invité Sébastien Dupont, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Vous êtes expert en cybercriminalité, ça vous va?
Je préfère expert en cyberdéfense, mais ça me va aussi.
Ouais, cyberdéfense, c'est bien aussi. Vous publiez « Vous êtes fou d'aller sur Internet » chez Flammarion, sous-titré « Usurpation d'identité, piratage, sécurité, un expert vous dit tout pour tout ce que vous devez savoir » aux éditions Flammarion. Votre travail consiste à sécuriser les réseaux d'ordinateurs et les flux de données de grands groupes et d'organisations étatiques. Et on va essayer de faire de la simplicité ce matin, c'est d'expliquer donc simplement ce qui, a priori, est compliqué. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne la sécurité, on est tous concernés.
Tout à fait.
Très peu de gens sont à l'abri.
Exactement. Si je vous cite les arnaques, vous allez vous apercevoir que dans votre famille, vous avez forcément entendu cela. Je vais en citer quelques-unes. L'usurpation d'identité, le piratage de votre ordinateur, le rançongiciel qui a bloqué votre ordinateur.
Le
rançongiciel, c'est un virus qui va bloquer l'accès à vos données. On en a beaucoup parlé l'année dernière, puisque ça a fait des centaines de milliers de dégâts. Il y a également le sujet des sites de rencontres. On n'est jamais à l'aise dessus. On peut citer le harcèlement. Et vous savez qu'il y a plus de 50% des femmes qui se sont senties gênées sur les sites de rencontres. Il y a la fracture numérique, qui est un sujet qui m'intéresse. Les algorithmes, les infox, qui sont un vrai sujet. Et les numéros surtaxés, on reçoit tous sur nos téléphones des SMS bidons.
Ouais. Alors, vous avez testé vous-même ce que vous appelez les oui-oui.
Alors,
nos oui-oui, qu'est-ce que ce sont que nos oui-oui dans votre langage?
Par oui-oui, c'est tout ce qui est numérique que nous utilisons. C'est aujourd'hui, évidemment, les ordinateurs, le téléphone. Dans quelques temps, ça va être les objets connectés, puisque il nous a fait la promesse qu'on va tous avoir des objets connectés dans nos maisons, la domotique, des capteurs, des imprimantes connectées, et ça commence déjà, des frigos connectés. Et tous ces objets sont sur Internet. Et donc, le pirate peut très bien s'immiscer dans votre vie privée en se connectant à ces oui-oui.
Y a ça, mais les comptures électriques, par exemple, pour prendre que ça, hein, pour, au moins, si tout le monde n'a pas un frigo connecté encore aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins un compteur électrique.
Tout à fait. On a ces compteurs électriques qui sont aujourd'hui, il faut rassurer ceux qui peuvent être rassurés, les compteurs électriques ont fait l'objet de démarches de sécurité sérieuses de la part du gouvernement. Et moi, au moins, là-dessus, je suis rassuré.
Parce que vous les avez testés?
Je ne les ai pas testés, mais j'ai été vérifié que ces démarches existaient. Et j'ai confiance dans ces démarches, puisque j'ai suivi la même pour sécuriser des systèmes.
Bon, alors aujourd'hui, vous partagez avec nous la sécurité de nos oui-oui, et vous allez nous délivrer un certain nombre de ce qu'on appelle les bonnes pratiques numériques en matière de sécurité. Mais en fait, la criminalité a vraiment changé. Mais est-ce que les cyber, ce qu'on appelle les cyber-escrocs aujourd'hui, ils n'ont pas un coup d'avance et que finalement, ils vont aussi vite, voire même plus vite que la technologie?
Alors, ils ont un coup d'avance et puis surtout, ils sont très motivés. Ils sont très motivés parce que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils arrivent à récupérer des centaines de milliers d'euros. On a vu des arnaques où ils ont récupéré quasiment 1 million d'euros. Et donc, ils ont envie d'aller chercher 10 millions de plus. Et pourquoi ça marche? Ça marche parce qu'ils attaquent ce qu'on a de plus sensible, c'est-à-dire qu'ils attaquent notre ignorance et nos émotions. Ils attaquent notre culpabilité, comme en ce moment, je ne sais pas si Philippe, tu es au courant, il y a une vague d'attaques où vous recevez un mail et on vous dit « Je vous ai filmé en train d'aller sur des sites de rencontres. Si tu ne verses pas 500 euros, je vais diffuser cette vidéo à ton carnet d'adresses ou sur Internet. Donc il faut que tu payes ces 500 euros. » Donc là, on est pris de culpabilité et on a peur. Et quand nos sentiments...
Attendez. D'abord, comment ils savent que je m'appelle Philippe et comment ils arrivent jusqu'à moi?
Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'ils ont volé, on ne sait pas où, on n'a pas l'information, ils ont volé des informations personnel comme des adresses e-mail. Et ils font des envois massifs de mails, et sur le nombre de mails qui sont transmis, il y a un certain nombre de personnes qui vont prendre au sérieux cette menace et qui, malheureusement, vont transmettre l'argent. Et ça, c'est assez amusant.
Ah, mais c'est flippant, votre histoire.
C'est flippant. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il faut le dire, parce qu'en ce moment, il y a eu des dizaines de milliers...
Parce que Dider, qui réalise l'émission, qui est en face de moi, en reçoit tous les jours, ils disent, on va envoyer la vidéo.
Alors surtout, ce qu'il faut faire, il ne faut rien faire, puisqu'ils jouent sur nos sentiments, et c'est là qu'on est un peu pris au piège. Donc il faut tout de suite, la première chose à faire, c'est qu'il faut poser les choses, il faut aller sur Internet vérifier si ce n'est pas une arnaque, et vous allez tout de suite voir que c'est arrivé à plein d'autres personnes et que c'est une arnaque, et ne rien faire, ne surtout pas répondre.
D'accord, mais dans ces cas-là, je sais pas, moi j'aurais tendance à fermer ma boîte mail, je sais pas.
Mais vous avez raison que ça fait peur, parce que...
Moi, si quelqu'un arrive à avoir mes coordonnées, m'appelle par mon prénom et m'envoie, je sais pas, je me sentirais pas en sécurité, je dois dire.
Ça fait flipper. C'est pour ça que j'ai voulu lister dans ce livre les 100 pièges sur lesquels il faut être attentif et apporter des réponses. Et l'autre, pour alimenter la prudence qu'il faut avoir, quand on parle de ces émotions que les hackers vont nous chercher, parce que finalement c'est à la fois technique, des fois il y en a certaines qui ont été magnifiques d'un point de vue technique, mais c'est surtout sur nos émotions. C'est-à-dire qu'on va également vous faire une arnaque, on va vous dire, je suis dans un pays tiers, je suis ton petit-neveu, je suis dans un pays tiers, et il me manque 3000 euros pour pouvoir rentrer, ou il me manque de l'argent pour aller à l'hôpital, mes enfants, etc. Là, on va jouer sur l'empathie. Et on va vous demander, souvent dans ces arnaques, de réagir très rapidement, de prendre une action rapide, vite, c'est dans l'urgence. Quand c'est urgent, il est urgent d'attendre.
C'est l'attitude à adopter. Don't panic. Vous avez donc testé les systèmes, vous les connaissez. Aujourd'hui, quels sont les systèmes qui sont sûrs à 100%?
Alors, c'est une excellente question. Évidemment, je ne vais pas me mouiller en disant qu'il y a des systèmes qui sont sûrs à 100%. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce que moi je fais au quotidien et quels sont mes usages. Moi, je pense qu'il faut utiliser les outils informatiques parce que c'est très utile. Il faut les utiliser parce que ça permet de jouer le jeu de la sociabilisation, de rentrer en contact. Ça permet de jouer le jeu intergénérationnel. Vous savez que les enfants raffolent de ça. Moi, je fais même l'effort d'aller faire des jeux vidéo avec mes enfants parce que ça devient un moment privilégié. Et je me force tous les ans à utiliser une nouvelle application sur laquelle je n'étais pas habitué. Voilà, c'était WhatsApp il y a quelques années. Et chaque année, j'essaie de pas prendre un train de retard. Et ça, c'est intéressant parce que les personnes âgées, on croit qu'elles ne sont pas habituées aux réseaux sociaux, etc. En fait, il n'y a que 30% des personnes qui sont en difficulté avec l'outil informatique, et tous les autres font des efforts pour pouvoir rester connectés avec les enfants, par exemple, les petits-enfants.
D'accord, mais là vous dites « rester connecté ». Moi, je dois dire que je fais partie des gens qui je suis pas né avec les réseaux, je suis pas né avec l'informatique. Je lis très peu ce qu'on appelle les recommandations d'usage, tout ça. Donc, je suis basique. Pour moi, je regarde comment ça fonctionne. Et pourtant, vous dites que finalement, il y a des règles de sécurité simples à installer. Mais par exemple, sur Twitter, sur Facebook, sur ces boîtes mail, mais encore faut-il les connaître.
Alors, on peut les lister. Sur tous ces outils, Twitter, Google, Facebook, YouTube, première chose à faire, il faut mettre les filtres parentaux. Vous vous rendez compte que nous ne mettons pas assez en place les filtres parentaux pour nos enfants. Ça permet d'éviter que nos enfants rentrent en contact de façon accidentelle avec du contenu violent, du contenu pour adultes. Ça, il faut le faire, ça ne coûte rien. Il y a des tranches d'âge, ça prend quelques instants. De manière générale, sur tous ces outils, moi j'appelle dans le livre, on appelle ça les outils gratuits, entre guillemets, ils ont mis en place des fonctions de sécurité. Il faut aller les mettre en place. Moi, j'invite chacun à faire un test. Vous allez sur Google Location. Sur Google Location, vous allez voir comment vous êtes tracé. Vous allez voir... Bon, j'ai fait le test.
Alors, attendez, parce qu'il faut qu'on fasse le test en même temps. C'est location ou localisation?
Location, en anglais.
Location.
Location.
Location, ouais. OK. Attendez, je fais comme je peux, hein. je suis au maximum là. Google Location. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite?
Alors il faut déjà rentrer sur son compte Gmail, si c'est un compte Gmail.
Ah oui, d'accord, il faut rentrer sur Gmail, ouais.
Après vous allez sur Google Location, et le temps que Philippe, tu trouves ça, je peux citer d'autres mesures de sécurité. Le mot de passe reste aujourd'hui le rempart principal. Et il faut abandonner le mot de passe pour la passe-phrase. Il faut prendre une phrase, alors l'exemple que je cite, c'est « J'ai faim 6 fois par jour ».
Je ne veux pas le même que Bourdin. Hein. Je suis désolé. Alors là, parce que vous l'avez donné cette semaine à Bourdin. Allez, on va pour le même que Bourdin. Donc, c'est important parce que l'histoire des mots de passe, je peux vous dire, ça nous torture.
Donc, oui, ça nous torture et on ne sait pas lequel retenir. Donc, il faut avoir une phrase « J'ai faim 6 fois par jour » et il faut l'abréger. Donc, ça fait « J'ai fin 6x/j ». Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un mot du dictionnaire, donc le hacker, il va pouvoir le trouver facilement. Donc là, il faut faire une faute d'orthographe. Donc c'est tout ce qui s'appelle la passe-phrase. Il faut passer du mot de passe à la passe-phrase.
D'accord. Donc moi, j'ai Toutoun01. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Toutoun01, c'est pas bien.
C'est pas bien, pourquoi ?
Pourquoi il est pas bien, Toutoun01 ?
C'est pas bien
parce que... Moi, je l'aimais bien, Toutoun. Parce que alors, après, je peux faire Toutoun02. Et puis, vous voyez, je peux faire jusqu'à... Je peux multiplier les Toutoun.
Alors, Toutoun, ça dépend si c'est bien ou pas. Enfin, Toutoun01, c'est bien si vous mettez un T majuscule. Si après, vous avez des minuscules et vous avez un chiffre. Finalement, c'est pas mal, Toutoun. Vérifiez s'il y en a 8.
Alors, Toutoun.
Toutoun 01.
Ouais, c'est bon, ouais.
C'est pas mal parce que Toutoun n'est peut-être pas dans le dictionnaire. Je vérifie si Toutoun est dans le dictionnaire. Est-ce que Toutoun est dans le dictionnaire ? Ben, je vous laisserai vérifier à la maison.
Viens Toutoun. Enfin, je sais pas, moi je chante, mais bon. Alors, avec un T majuscule, c'est mieux, mon Toutoun.
Voilà. Et après, bon, vous prenez le risque quand vous mettez 02 sur le site d'après, c'est que si le hacker vous trouve Toutoun 01, il va facilement trouver Toutoun 02.
D'accord. Donc, vous, ce que vous dites, c'est qu'au niveau du mot de passe, on abandonne le mot de passe classique, c'est-à-dire sa date de naissance ou machin.
Ah oui.
Et on prend une phrase. À part j'ai faim 6 fois par jour, vous avez un autre exemple à donner ? Bon, on en a qu'un.
Je vais manquer un peu. Oui, alors effectivement, on va beaucoup le trouver sur Internet, celui-ci, ces derniers temps.
Ouais.
Mais je peux peut-être proposer aux auditeurs de nous faire des propositions.
D'accord. En fait, qu'est-ce qu'il faut éviter, en fait, pour
ce
être clair.
Ce qu'il faut éviter, voilà, c'est les mots du dictionnaire, parce que le hacker va avoir une bibliothèque de mots du dictionnaire, et donc il va rejouer rapidement, avec les puissances de calcul, les mots du dictionnaire. Donc si vous l'avez à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile pour lui de trouver le mot de passe. La deuxième chose qu'il faut éviter, c'est l'information public, c'est-à-dire que si vous avez publié le nom de votre animal de compagnie sur Facebook, bah, ça va être très facile pour lui. Donc les hackers commencent par chercher l'environnement, le nom du chien,
le hacker,
etc.
Il n'a que ça à faire.
Quand vous êtes Obama, un président, ou quand vous êtes une charmante demoiselle, bah, on s'aperçoit que vous devenez une victime d'une certaine population de l'Internet.
Si vous mettez le prénom de votre femme avec sa date de naissance, c'est mort.
Ben, c'est mort parce que ce sont des informations publiques.
Parce qu'effectivement, on peut se procurer cette information.
Et cette information, on peut la deviner assez facilement.
Bon, alors l'histoire des mots de passe, elle est centrale. Est-ce qu'il faut avoir le même mot de passe pour tout qu'on change régulièrement ou pas ?
C'est une des questions les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que ça dépend de notre capacité au jeu. Vous savez, dans l'enfance, on jouait toujours au jeu du memory. Si vous mangez beaucoup de poissons et que vous avez une excellente mémoire... Essayez, c'est ce qu'on recommande les experts, d'avoir un mot de passe différent pour chacun de vos comptes. Mais quand on a une dizaine et une vingtaine de comptes, on s'aperçoit que c'est vite impossible pour le commun des mortels, même pour moi. Donc ce que j'invite pour ceux qui veulent des choses simples, c'est soit de les écrire sur un carnet qu'ils laissent à la maison, qu'ils mettent à l'abri et qu'ils cachent. Évidemment, ce n'est pas la perfection, ça veut dire que vous acceptez un risque. Entre les deux... les retours d'expérience que j'ai, certains me disent, est-ce que c'est dangereux d'avoir la liste de mes mots de passe dans mon téléphone ? Ce que j'ai envie de dire, c'est que, évidemment, ça comporte un risque, parce que si vous faites pirater votre téléphone, la personne a accès à tous vos mots de passe. Donc la solution, c'est sans doute de revenir à la passe-phrase et de changer un élément de la passe-phrase. Voilà. Donc,
c'est-à-dire, on fait une faute d'orthographe.
Voilà.
Dire, changer,
j'ai faim 6 fois par jour, je vais changer soit le... Alors, peut-être pas le 6, mais je vais changer le slash à la fin qui va devenir pour... je sais pas, il faut trouver des moyens un petit peu mnémotechniques qui va devenir pourcentage, par exemple, sur les sites financiers, qui va devenir à l'horizontale lorsque vous allez sur les sites de rencontres. Voilà, il faut trouver des petits moyens mnémotechniques et prendre le temps. En fait, le message, c'est que quand vous avez une voiture, vous prenez le temps tous les ans de l'amener en révision. Parce que la sécurité... De votre sécurité dans ce véhicule est important. Sur Internet, on ne prend pas le temps. On pense qu'on a besoin de donner le téléphone, on n'a qu'une envie, c'est tout de suite de l'utiliser. Tous les ans, il faut prendre 10 minutes pour ouvrir le livre « Vous êtes fou d'aller sur Internet » et regarder...
Ça tombe bien, c'est le vôtre. C'est celui-là qu'il faut ouvrir.
C'est une bonne lecture.
Voilà.
Et j'explique, il y a une centaine... Enfin, par rapport aux 100 pièges... On donne des conseils. Alors, on peut revenir sur ces conseils pratiques.
Comme on a une heure pour en parler, on est tranquille. Donc, Sébastien Dupont, vous êtes notre invité. Vous avez bien répété le nom de votre livre. Hein. Vous êtes fou d'aller sur Internet, aux éditions Flammarion. Et bah oui, on n'a plus de batterie. Et justement, on va en parler de vos batteries dans un instant.
À votre service, reviens dans un instant. À votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, j'ai invité Sébastien Dupont aujourd'hui qui vient de publier « Vous êtes fous d'aller sur Internet » aux éditions Flammarion, usurpation d'identité, piratage, sécurité, localisation. Parce que là j'ai fait l'exercice que vous m'avez demandé de faire, Sébastien Dupont. Donc, j'ai une boîte Gmail. Voilà, donc vous m'avez demandé d'aller sur location.
Tout à fait.
Et là, c'est l'horreur.
Alors c'est l'horreur.
Alors là, c'est vraiment l'horreur.
C'est l'horreur parce que Philippe vient de découvrir sur une carte du monde, il vient de découvrir tous les lieux où il a été, quoi, ces dernières années, ces derniers mois ?
Ouais, ces derniers mois, sauf la Chine, mais la Chine, il y a une raison.
C'est que la Chine filtre de façon très efficace ses flux, notamment avec les géants de l'Internet, donc ça peut expliquer pourquoi on ne voit pas ta présence en Chine. Par contre, on voit ta présence... Alors, je ne veux pas divulguer ta vie privée.
Non, mais... s'il vous plaît. Non, là, on voit ma présence.
On voit ta présence et tu m'as donné ton accord.
Au bois de Boulogne.
On voit ta présence.
Au bois de Boulogne. Ouais.
Quand tu fais ton footing
dans
le bois de Boulogne.
Heureusement que c'est du footing que je fais parce que là, j'y suis, on me voit.
Ou à Vincennes, on voit tous les lieux. Alors, tu es plutôt rive droite, ce qu'on s'aperçoit sur la carte de Paris. On voit les salles de sport où tu vas. On voit les magasins où tu vas faire tes courses.
On voit toute ta vie. Non seulement, en plus, il y a le nom. Il y a écrit Monoprix. C'est une horreur, c'est un truc.
Il y a un point rouge sur la carte de Paris, précisément avec l'adresse exacte. C'est-à-dire qu'on peut étudier toute ta vie. On peut voir. Alors, je sors du cas de ton cas pour
l'élargir,
pour
à,
l'élargir
tout le monde.
À tout le monde. Ouais. Le chef d'entreprise qui est en train de faire des prospects et qui est en train de rencontrer des entreprises, et bien le concurrent. S'il mettait la main là-dessus, il pourrait savoir quels sont les marchés de son concurrent.
Ouais.
On peut voir où vous allez acheter des fleurs et quand et où est-ce que vous allez apporter ces fleurs, quasiment. Donc ça pose quelques questions. Alors, après, il faut rassurer les individus. Alors, c'est vrai que ce test est quand même
Moi, j'aime pas l'idée,
assez flippant. Hein. Oui,
enfin,
oui.
Non, alors ça, franchement, oui. Donc là, pour moi, aujourd'hui, l'idée, ça serait, Sébastien Dupont, de me dire comment est-ce que je pourrais éviter ça. Si je n'avais pas de boîte Gmail, est-ce que je pourrais avoir ça?
Alors ça, si vous n'avez pas de boîte Gmail... Alors, la question, Philippe, c'est comment éviter de se retrouver tracé de cette façon? Pour éviter de se faire tracer, alors, il y a deux choses. La première, c'est que Google, quand vous utilisez Google, vous êtes pas besoin d'activer la géolocalisation. Donc dans le livre, je recommande de vérifier que vous n'avez pas la géolocalisation qui est activée pour des applications qui ne le nécessitent pas. À chaque fois, voilà, vous activez la géolocalisation pour Maps, etc., enfin pour des applications de transport, de trajet, mais pas pour Gmail. Et maintenant que vous avez été tracé, ce que je vous recommande, vu que vous êtes sur le site, c'est de profiter d'être sur la page en bas à droite pour supprimer l'historique. Et là, toutes ces informations vont disparaître.
Mais si je fais rien, ça va continuer à se mettre.
Oui.
Donc on peut enlever l'historique.
Voilà. Et ça montre que nous, eh bien, il faut prendre un peu de temps pour les paramétrer. Et cette information, peu de gens la connaissent.
On parlait tout à l'heure des batteries. La première chose que les gens font maintenant quand ils arrivent quelque part, c'est ils vous demandent où il y a une prise, où ils vont pouvoir se brancher pour recharger leur batterie ou un ordinateur. J'ai vu mieux, par exemple, dans des aéroports, aujourd'hui, vous avez des box dans lesquelles vous pouvez connecter votre téléphone pour le recharger. Et je me dis, mais c'est génial comme idée.
Il y a une prise de risque. C'est-à-dire que le pirate va avoir tendance à... son piège parfait, c'est de mettre non pas une borne de recharge inoffensive, mais ça va être derrière l'intelligence d'un ordinateur. Et il va se connecter à l'insu de vous à votre téléphone et piéger votre téléphone ou récupérer des choses. Donc ce qu'il faut faire là-dessus, c'est qu'il faut plutôt se brancher sur les prises électriques et non pas sur la prise USB classique. Voilà. Après, le conseil, c'est d'être autonome sur ce sujet avec une recharge, il y avait une super promotion en ce moment sur les Apple, de changer sa batterie pour qu'elle dure un peu plus longtemps. Mais vous avez raison qu'il faut avoir une stratégie de sécurité vis-à-vis de ce risque.
Mais quand on ne le sait pas, la seule chose qui compte dans les 10 minutes qui viennent, c'est d'avoir un tout petit peu de power pour pouvoir utiliser son téléphone.
Exactement. C'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ces risques et qu'aujourd'hui, quand on est privé du téléphone parce qu'on s'est fait piéger, ça devient... Alors, sur le coup, c'est quand même dérangeant. Bon, après, on peut peut-être en profiter pour aller se balader en forêt et aller courir. Donc, il y a aussi la vie qui existe sans le téléphone.
Donc, pour résumer... quand vous arrivez dans un aéroport et que vous avez toutes ces boîtes sur lesquelles vous pouvez vous connecter pour recharger votre téléphone, ça c'est pas du tout une bonne idée.
Ah ben moi j'évite de le faire. Hein. C'est pas une bonne idée. Enfin c'est une prise de risque, c'est-à-dire que
c'est une prise de risque.
C'est
voilà.
Une prise
on
de
va
risque.
Pas devenir parano, mais
voilà. C'est une prise de risque. Si c'est à vous d'estimer s'il est plus important de prendre ce risque de piratage ou de pas avoir d'énergie pour votre téléphone. Moi, ce qui est important, c'est d'avoir conscience du risque. Et de l'assumer. Moi, pour vous dévoiler quelque chose sur ce que je fais, moi, je me suis retrouvé en Italie cet été et au moins, j'avais plus de batterie. Et ben, j'ai pris mon téléphone et je l'ai laissé chez le commerçant. C'était une prise de risque assumée parce qu'à ce moment-là, j'avais confiance. Donc, voilà, il faut que ce soit des prises de risque assumées et qu'on ait conscience des risques.
Donc, ça c'est important. On ne le recherche pas non plus sur un ordinateur.
Voilà, si ce n'est pas un ordinateur de confiance, ouais. Si c'est votre ordinateur... Vous pouvez le faire. Si c'est un ordinateur qui n'est pas de confiance, il vaut mieux éviter.
Dans les avions, parce que maintenant, aujourd'hui, on a des ports USB dans les avions pour se connecter.
Alors, les avions, j'ai plutôt tendance à ce que ce soit des systèmes sécurisés et à ce que le risque soit pris en compte. Donc, j'aurais davantage confiance dans les avions.
Bon, deuxième chose, quand on arrive quelque part et qu'on a une demi-heure d'attente, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte au réseau Wi-Fi. Partout, d'ailleurs, la première chose qu'on fait quand on arrive, si on est à l'étranger, on dit « Est-ce que vous avez le code pour la Wi-Fi ?»
Alors là, il y a une prise de risque également. Si vous êtes une entreprise, évidemment, il faut passer par les outils de l'entreprise qui vont sécuriser davantage le flux. À titre personnel, il faut être très vigilant à ce que vous vous connectez sur le bon réseau Wi-Fi, la bonne adresse, et que ce ne soit pas un petit malin qui ait créé une adresse légèrement différente. Du coup, vous allez créer une liaison entre votre téléphone ou votre ordinateur et la machine du pirate.
D'accord, mais ça on le voit, c'est la même chose presque.
C'est la même chose presque. Donc là, il faut être vigilant, il ne faut pas aller trop vite. Et ça, c'est une mesure qu'on peut également citer, qui est valable aussi pour les infox. Vous savez, tous les...
Les infox, c'est
les
donc...
infox, c'est tout ce qui est les hoax. C'est-à-dire que plutôt que d'encourager... Des rumeurs, vous savez que ces rumeurs, après, c'est très gênant, parce que quand tout le monde stigmatise des individus, eh bien, il y a certains qui finissent par réellement croire que la personne est une personne qui a fait quelque chose de pas bien ou de mal, et qui va se retrouver parfois agressée physiquement. Donc sur Internet, la bonne mesure, c'est que plutôt que de cliquer, parce que c'est facile, je lis, plutôt que de faire du deux étapes, je lis, je clique, je lis, je réfléchis pour savoir... Pour trier l'information, est-ce que je ne suis pas en train d'alimenter une parano et ça a des conséquences. Et après, je prends une décision.
C'est-à-dire qu'en fait, fait de cliquer sur un lien qui est une infox, c'est ça qui va générer...
Des meutes, des mouvements de croyances, etc. Donc il faut qu'à titre individuel, on arrive à ralentir. Il faut rajouter du temps, finalement. Voilà, bon, on a le droit d'aimer des... Voilà. Et puis, ce qui est important, c'est aussi, il faut se modérer. Moi, j'ai un mot ancien que j'aimerais refaire venir à l'ordre du jour, c'est la tolérance. C'est-à-dire que, de nos jours, sur Internet, il faut vraiment qu'on fasse preuve de modération, qu'on évite d'être agressif. C'est vraiment faire, quelque part, c'est l'éthique du web. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 9% des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont des commentaires agressifs? Est-ce que c'est quand même...
9%?
9%.
Ah, moi, je pensais que c'était beaucoup plus, en fait. Je pensais que les commentaires agressifs étaient de loin, supérieurs aux commentaires bienveillants.
Donc, ça fait déjà beaucoup. Et donc, il faut faire preuve un peu de modération et d'essayer de vérifier l'information. Il y a les journalistes qui font un travail incroyable, des associations. On peut citer quelques noms d'associations. Il y a Respect Zone, qui est une association qui milite pour une éthique de l'Internet, pour que les gens soient plus tolérants les uns avec les autres, moins violents. Il y a l'association e-enfance qui fait un travail incroyable avec des ressources à destination des enfants, mais pas qu'à destination des enfants, à destination des adultes. Si par exemple votre enfant se fait piéger sur un site de rencontre où on lui filme, il est filmé en position délicate où il est dénudé et qu'il est en panique parce qu'on lui dit si tu ne verses pas de l'argent, on va publier ça sur Internet. Voilà, ce sont des associations qui aident et qui vont pouvoir apporter des solutions. Et enfin, si vous êtes un chef d'entreprise ou une profession libérale et que votre ordinateur, vous avez un écran, il est bloqué, vous avez un problème informatique, là souvent on est paniqué, on ne peut pas appeler les pompiers. Hein, avant, on était habitué d'appeler les pompiers. D'ailleurs, ça peut être une idée, qu'on crée des cyberpompiers. Aujourd'hui, la solution, c'est d'aller sur le site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Et il y a pas un petit jeu, mais il y a un petit quiz au début du site web. Et en fonction de ce que vous allez cocher, il va vous orienter vers un professionnel près de chez vous.
Bon, donc, si j'ai bien compris, il faut investir dans une batterie portable.
C'est une mesure de prudence.
Voilà, et éviter de se connecter au réseau Wi-Fi. Alors, et quelque chose vraiment auquel je n'avais jamais pensé, mais c'est quand on crée une adresse mail, par exemple, bêtement, moi, je prends mon nom, mon prénom, et puis voilà. Vous vous dites que ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, c'est en fonction de l'usage qu'on veut faire de son adresse mail, il faut l'adapter. Donc, c'est-à-dire, quelle est votre règle ?
Ce qui me semble important sur les sites de rencontres, par exemple, c'est de pouvoir garder son anonymat. Vous savez que la confiance, ça s'accorde, mais peut-être pas tout de suite, on ne va pas tout donner, et à tout le monde. Donc, il fait aller, il y a des signes pour être assuré, et puis aussi on a des intérêts. Voilà. Donc, dans ce jeu-là, il est recommandé sur les sites de rencontres de préserver son anonymat. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'adresse mail qui est mise en avant, c'est une adresse anonyme. Ça veut dire que les photos, autant que de possible, ce sont des photos où ce n'est pas votre visage. C'est un avatar. Ouais. Là, vous créez un avatar. Ouais. Vous créez votre double virtuel. Vous évitez de dire où vous habitez, où vous travaillez, parce que ce sont des informations qui vont pouvoir être utilisées par des criminels pour vous faire chanter ou par des personnes pour un moment ça donne prise à du harcèlement finalement.
Alors faut pas être parano non plus, mais il faut être vigilant. Donc alors pour les stratégies de création de boîte mail, qu'est-ce que vous conseillez finalement?
Il faut avoir un avatar, donc vous prenez le nom que vous voulez, il faut avoir de l'imagination.
Non, mais là on est sur les sites de rencontres, mais finalement dans les boîtes mail qu'on utilise au quotidien, On y va avec son nom et son prénom ou pas ?
Bon, aujourd'hui, je veux bien me faire contredire par des auditeurs, je ne vois pas, en réfléchissant tout haut, à mettre... Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant quand même, parce que si on a que des codes sur Internet, on ne va plus s'en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, sur la partie non anonyme, il me semble intéressant de garder son vrai nom et son vrai prénom.
Donc sur la partie professionnelle, on va dire.
Sur la partie professionnelle...
Là, on peut.
Voilà.
Sur ces boîtes perso, ensuite ?
Vous me posez une colle, je n'ai pas réfléchi à ce sujet. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de difficultés, je n'ai pas vu de piège lorsque l'on a son vrai nom et son vrai prénom. Donc moi, je n'ai mon avatar que sur des sites, des réseaux sociaux où j'ai besoin d'être anonyme. Voilà.
Donc quel genre de réseaux sociaux sur lesquels vous utilisez un avatar ?
J'ai créé des avatars lorsque j'ai fait le test d'aller sur les sites de rencontres. Donc là, j'ai créé un avatar.
D'accord, mais là, c'est très particulier finalement. C'est les sites de rencontres, donc ça veut dire que pour le reste, on n'a pas besoin d'avatar.
Oui, alors si vous allez sur des sites de discussion qui peuvent créer polémique, etc., ça peut être intéressant d'être anonyme quand on discute, parce que vous défendez des positions qui peuvent créer de la violence chez ceux qui la reçoivent, malheureusement. Et il faut rappeler que toute cette violence sur Internet est punie par des lois. Et assez sévèrement. Donc, il faut aussi faire preuve de prudence et savoir que sur Internet laisse des traces. C'est-à-dire que le harceleur va laisser des traces sur Internet et les services de police vont pouvoir remonter jusqu'à lui.
Donc, dans ces cas-là, faut porter plainte. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas faire l'autruche. Vous êtes victime d'un mail malveillant, de quelque chose qui ne vous plaît pas, vous portez plainte.
Il faut porter plainte et les services de police ont sorti un nouveau service qui est très utile et qui va être vraiment de plus en plus utilisé. C'est ce qu'on appelle la plateforme Pharos. La plateforme Pharos, elle permet de signaler les faits les plus graves du numérique. Donc ça, allez jeter un petit coup d'œil.
Alors Pharos, vous l'écrivez comment ?
C'est P-H-A-R-O-S. Pharos. Et vous avez raison que c'est un vrai problème, ces sujets de harcèlement. Vous savez que dans les cas des violences conjugales, dans 85% de ces cas, les violences s'accompagnent de cyberviolences. Alors, par cyberviolence, ça, c'est quoi ? C'est un cybercontrôle. C'est-à-dire, non, ma chérie, tu n'iras pas sur Internet, ou je vais, donne-moi ton mot de passe. Voilà, ce qui est quand même tout à fait inacceptable. Et puis, on va vous dire, donne-moi ton mot de passe, tu n'as rien à cacher. Hein, alors que ça, quand on vous dit
parce
ça...
Parce que tu n'as rien à te reprocher.
Tu n'as rien à te reprocher, donne-moi ton mot de passe. Quoi. Et n'oubliez pas qu'on devrait tous avoir une vie personnelle et une vie numérique personnelle.
Sébastien Dupont est notre invité. Je rappelle le titre, Sébastien, de votre livre, ça s'appelle « Vous êtes fou d'aller sur Internet » aux éditions Flammarion. Nous sommes tous des cyber-acheteurs et on verra quelles sont les arnaques qui peuvent arriver.
À votre service, reviens dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, à votre service, avec Philippe Robichon.
Après cette émission, vous allez tous être vigilants, augmenter votre sécurité numérique. On parle justement avec mon invité ce matin, Sébastien Dupont. Vous êtes fou d'aller sur Internet aux éditions Flammarion. S'il y a quelque chose qui est en train d'augmenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Le nombre de dossiers est en augmentation. Comment est-ce qu'on peut se faire piquer son identité numérique ?
Vous utilisez sur Internet, vous transmettez sur Internet votre photocopie de carte nationale d'identité ou il est partagé avec un loueur de voiture ou de matériel de location ou une entreprise quelconque. Elle stocke dans ses archives ou dans ses bases de données cette information et à un moment, elle va se faire dérober cette information. Donc, cette information est dérobée à un moment et du coup, une personne peut aller créer, va voir une banque, un service bancaire et va faire un emprunt à votre nom, avec ce moyen. Et du coup, vous allez vous retrouver victime de cette attaque, de cette arnaque, et c'est à vous de rembourser le crédit.
Ah oui, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas, protégé.
C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, là je décris l'attaque. Ouais. Si vous voulez vous protéger contre ce risque d'usurpation d'identité, sur ce scénario bien précis, il faut protéger ces photocopies, c'est-à-dire que vous évitez de les transmettre sur Internet, vous les déchirez à chaque fois que que vous n'en avez plus besoin. Et ce qu'on recommande également, si vraiment vous avez besoin de les transmettre sur Internet, c'est d'envoyer des pièces de mauvaise qualité et de les biffer au feutre en disant « j'ai transmis ce jour-là » à telle personne pour ce besoin précis, pour éviter que ce soit réutilisé.
Si vous prenez par exemple les compagnies de transfert de fonds en ligne, par exemple quand vous voulez virer de l'argent à l'étranger aujourd'hui, ils vous demandent, pour enregistrer votre dossier, d'envoyer la photocopie de votre pièce d'identité, vous voyez.
Donc c'est le seul moyen qui permet de réduire les risques, voilà.
Bon, mais ce que vous dites, c'est qu'il vaut mieux éviter d'envoyer la photocopie d'une pièce d'identité par mail.
Tout à fait. Parce que vous êtes sur Internet et la personne qui le reçoit, comme le transport de l'information, on ne sait pas par où ça va transiter. Et donc, vous pouvez vous faire voler cette information.
Comment est-ce qu'on peut se faire pirater sa boîte mail ?
Alors, le piratage de sa boîte mail, pour simplifier, il y a deux cas. Le cas qui arrive sur votre ordinateur ou sur votre téléphone avec une attaque qui s'appelle l'hameçonnage. Ou phishing en anglais. C'est-à-dire que vous croyez recevoir un mail de la part d'un organisme de confiance, un organisme bancaire, un organisme d'État. Vous allez être amené à cliquer sur un lien. Et quand vous cliquez sur le lien, ça va soit exécuter un petit code, une petite application, quelque chose de proche comme ça, qui va faire des choses pour lesquelles qui n'étaient pas prévues. Qui va, par exemple, mettre en contact votre téléphone avec un pirate. On appelle ça des outils de type RAT, comme Rat des champs et Rat des villes. RAT pour Remote Access Tool. Et ça permet aux pirates de prendre la main sur votre téléphone, c'est-à-dire de récupérer, de collecter tout ce que vous allez saisir, vos mots de passe, vos numéros de carte bleue. Ça permet également aux pirates de prendre la main sur le micro ou sur la caméra.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est une attaque qui a été documentée, puisque le FBI et Europol ont remonté un réseau qui avait mis en place ce type d'outils. Et qu'est-ce qu'on apprend en lisant ces rapports du FBI ? On apprend qu'un groupe de 5 personnes ont créé un outil de ce type Ils l'ont distribué, c'est-à-dire qu'ils ont créé un réseau commercial pour vendre cet outil. Il était à vendre à un prix assez accessible. Et il y a eu 500 000 personnes qui ont téléchargé cet outil pour l'utiliser. Bien entendu, le fait, dont des Français, le fait d'utiliser ces outils est puni de 5 ans d'emprisonnement oui. et de 250 000 euros d'amende.
D'accord, mais aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la dématérialisation, aujourd'hui, on ne reçoit plus de courrier, donc vous déclarez vos impôts en ligne, vous recevez vos factures en ligne, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous recevez plein de mails d'organismes. Alors, vous avez les impôts, votre opérateur téléphonique, des banques, plein de choses, ce qui fait qu'à un moment donné, comment est-ce que vous pouvez savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas ?
On est un peu démunis, mais il faut essayer, il y a une vraie difficulté. On peut essayer de donner deux conseils pratiques. Le premier, c'est quand vous allez, on vous envoie un mail, on vous demande de l'argent dans un premier temps pour vous en reverser plus. Il y a une arnaque, il y avait une arnaque comme ça il y a quelques temps. Les impôts vous écrivaient en vous disant, on vous a pris trop d'argent, on va vous en rendre à hauteur de 15 000 euros. Mais par contre, pour faire cette opération, il faut que vous payiez les frais de dossier qui s'élèvent à 500 euros par exemple. Mmh. Et on va vous faire payer. Dans ce cas-là, c'est évidemment une arnaque parce qu'on vous demande de l'argent. Et le conseil, si vous voulez rester en contact avec votre site de e-commerce ou votre site d'administration, c'est de retrouver dans vos favoris le lien, votre lien habituel, ou de passer carrément sur les chemins normaux via Internet, c'est-à-dire via le navigateur, et ce qui est dans le top qui ressort quand vous faites la recherche sur votre site bancaire.
Comment s'assurer quand on achète sur Internet, puisqu'aujourd'hui de plus en plus de choses s'achètent sur Internet, de la protection de nos moyens de paiement en ligne ?
Alors heureusement, les enseignes bancaires d'e-commerce ont beaucoup travaillé ces derniers temps. Ils ont amélioré la sécurité. Et par contre, il y a des choses qui dépendent de vous. On a parlé tout à l'heure du mot de passe, donc il faut que le mot de passe soit fort. Ça, c'est important. Il faut que vous pensiez à le changer régulièrement. Pourquoi ? Parce que si le site s'est fait pirater et que le site, qui est un petit jeu en ce moment que jouent les entreprises, qui est de ne pas vous prévenir qu'ils se sont fait pirater.
Mais alors, on l'a vu avec Facebook, qui a été obligé de l'avouer. On l'a vu avec une Marriott, la grande marque d'hôtel, qui a été obligée d'avouer qu'ils s'étaient fait pirater tous leurs fichiers, enfin un certain nombre d'adresses.
Mais parce que ce sont des sites américains. Et eux, ils ont dans leur culture depuis plus de 20 ans, ils sont obligés par la loi de faire ça. Or, en France, les enseignes ne sont obligées de prévenir qu'ils ont été piratés que depuis quelques mois, que depuis mai 2018 avec le RGPD. Et donc, ils n'ont pas pris cette culture. Or, c'est essentiel qu'ils puissent nous prévenir pour que l'on change notre mot de passe. C'est le seul moyen, si le site s'est fait voler les mots de passe, pour qu'on puisse à nouveau être protégé. Donc j'incite, et vraiment j'incite chacun d'entre nous, de faire pression pour qu'on change cette culture. Il y a un graphique qui est sorti récemment qui montre cela, c'est que les pays du Nord déclarent 10 fois plus de vols des mots de passe sur les sites d'administration ou e-commerce, etc., que la France.
Beaucoup et de plus en plus de gens hésitent à payer en ligne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui payer en ligne en toute sécurité ? Et est-ce qu'on peut utiliser tous les moyens de paiement qu'on met à notre disposition, PayPal et tutti quanti ?
Alors, sur les sites qui ont pignon sur rue, je suis assez confiant. Sur les sites...
Là, vous avez dit « je suis assez confiant ». Moi, si vous me dites « je suis confiant à 100 %, je comprends ce que vous me dites. Si vous me dites « je suis assez confiant », vous voyez ce que je veux dire ? Assez, ça minimise votre degré de confiance.
C'est une question de probabilité. On peut citer des chiffres. Aujourd'hui, les fraudes sur les transactions numériques, c'est 1 pour 1000. Donc 1 pour 1000, on s'aperçoit que c'est très faible. Ça va arriver dans votre famille au bout de 10 ans. Donc le risque, il est que vous perdiez votre porte-monnaie en allant chez le commerçant dans la rue, doit être au moins 3 à 4 fois plus élevé. Donc ce sont, on va dire que c'est très sécurisé pour parler avec, pour vulgariser. Évidemment, moi je suis un spécialiste, donc je trouve qu'on ne fait pas assez d'efforts. Mais je vois le chemin qui nous reste à parcourir. Mais il faut rassurer les individus, parce que ce sont des outils qui nous apportent beaucoup. Donc moi aujourd'hui, je le fais et j'ai confiance.
Bon, vous pillez sur Internet. Le gratuit, ça n'existe pas, apprend-on. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Nos données personnelles ont de la valeur. Comment savoir finalement ce que les opérateurs font de nos données, de nos informations ?
Alors ce qui est important, c'est d'avoir une vraie politique sur vos outils gratuits, de savoir comment vous exposez vos données. Est-ce que vous voulez que tout le monde y ait accès? Ça peut être un choix. Vous voulez sur Facebook communiquer avec le plus grand nombre, ou vous ne voulez communiquer que à votre carnet d'adresses. Donc ça, c'est des choix. Après, c'est vrai qu'il y a une utilisation, c'est un modèle économique, il y a une utilisation par ces applications pour faire du marketing. Donc aujourd'hui, ce modèle économique existe. La principale difficulté, le principal déséquilibre que j'y trouve, c'est que le bénéfice va profiter essentiellement à ces géants de l'Internet qui, par ailleurs, ne paient pas encore d'impôts dans les pays où il y a les consommateurs. Donc le principal déséquilibre, je le trouve ici. Là, on parle de politique, mais c'est important parce que ces millions, ces dizaines de millions, ces centaines de millions, on pourrait presque évoquer peut-être davantage, ce sont des hôpitaux en moins, c'est de l'argent en moins pour les Français, les Européens. Donc il y a un vrai... Et là, les pouvoirs publics, il y a des vrais changements. Donc ça, c'est des signes positifs qui se mettent en place et c'est heureux.
Est-ce que je dois ressortir mon vieux Nokia 5110 comme tous les dealers, comme on dit qu'aujourd'hui que les vieux téléphones finalement sont moins repérables et sont moins sensibles au piratage?
Vous avez tout à fait raison que ça peut être une idée. C'est-à-dire que ces vieux téléphones n'ont pas de fonctionnalités liées à l'Internet. Donc il y a moins de prise de ce point de vue-là à ce qu'une personne tierce puisse pirater votre téléphone. Ceci dit, quand vous utilisez ces vieux téléphones, vous n'allez pas être compatible avec les derniers protocoles téléphoniques, les 3G et les 4G. Vous allez rester souvent sur des protocoles anciens,
2G
ou éventuellement 3G, qui sont des protocoles qui comportent également des risques. Donc c'était une stratégie qui pouvait valoir le coup à un moment, mais qui, de mon point de vue, aujourd'hui, devient de plus en plus obsolète.
Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et il est souvent illusoire et difficile pour les parents de vouloir contrôler l'usage et de pouvoir le faire que les enfants ont d'Internet. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, finalement, qui soit utile et que les parents puissent utiliser, justement, avec leurs enfants?
Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps pour les conseils utiles. C'est que nos enfants peuvent être des victimes de harcèlement sur Internet, mais ils peuvent également être les bourreaux. Il ne faut pas oublier que c'est souvent les camarades. Et donc, ils vont avoir ce double langage.
Enfin, vos enfants, pas les nôtres. c'est comment ça se passe.
Exactement. Et donc, du coup, il faut, avec eux, ce que j'ai fait dernièrement avec mon fils, c'est qu'on a été sur le dictionnaire, voir ce que signifiait le mot harcèlement. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de... c'était à tour de rôle. Ils harcelaient... à tour de rôle. Et donc il faut qu'on leur fasse prendre conscience que la vie, c'est pas tout le temps de se casser, c'est aussi de souligner des choses positives, et on n'est pas un has-been quand on choisit de voir la beauté des choses, des gestes, etc., du quotidien. Une belle passe au foot, ça vaut des fois beaucoup plus qu'un très beau but.
Il y a une arnaque qui est sortie il n'y a pas longtemps, dans laquelle indirectement, le chanteur Amir était impliqué.
Alors c'est une arnaque. Vous êtes une jeune dame, vous allez recevoir un mail prétendu arrivant d'Amir, le chanteur. D'ailleurs, il joint sa photo pour le prouver. Mais en fait, c'est une arnaque, ce n'est pas lui. Donc, dans un premier temps, il va vous demander un peu d'argent. Et vous êtes là pareil, il va jouer sur votre sentiment d'empathie. Et vous êtes très heureuse qu'Amir s'intéresse à vous. Donc, vous allez verser les 7000 euros. Après, il va vous demander des photos un peu olé olé, et ça lui fait un excellent...
J'aime bien le olé olé, plus personne n'utilise ça, mais enfin bon, ça me rassure que ce soit vous qui le fassiez plutôt que moi. Donc des photos un peu dénudées.
Chacun son vocabulaire, c'est vous qui l'avez dit.
Et... Ah non, c'est moi qui l'ai dit, olé olé, on a l'impression que c'est des photos où elle fait des castagnettes.
Elle peut faire des castagnettes de façon dénudée. Et du coup, le pirate va avoir un moyen de levier pour faire chanter sa victime. Donc dans ce cas-là, alors évidemment, là, les arnaqueurs s'adressent aux personnes...
fragiles, on va dire. Bon.
Moi, je trouve qu'une personne empathique n'est pas une personne fragile, mais je vois ce que vous voulez dire. Et il faut protéger ces personnes, parce qu'on a encore besoin de ces gens dans le monde. Et donc, du coup, il faut tout de suite qu'elle appelle les services de police, et il faut recommander à tout le monde d'arrêter... d'envoyer ces photos dénudées à Amir.
Bon, en règle générale, on n'envoie pas de photos ni sur WhatsApp, ni nulle part. Voilà,
c'est un choix.
Ni sur Insta. Ouais, c'est un choix, mais bon, voilà.
C'est un choix. Moi, je ne suis pas pour interdire les usages. Il y a des prises de risques. Mais évidemment, à la jeune fille qui veut envoyer une photo de son genou de son épaule ou davantage, on va lui recommander de ne pas envoyer la photo de son visage.
Bien, la suite est dans votre livre. Il y a beaucoup de conseils, hein, puisque vous en donnez 100, une centaine de conseils justement pour pouvoir naviguer aujourd'hui et faire de nous des consommateurs, des navigateurs avertis, puisqu'un consommateur averti en veut deux. Vous êtes fou d'aller sur Internet, Sébastien Dupont, c'est le titre de votre livre, Usurpation d'identité, piratage, sécurité. C'est vous l'expert et vous nous dites tout ce que nous devons savoir. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Philippe, c'était
très intéressant. Et à bientôt.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.